Bonjour à tous. La prédication de ce matin, c'est la suite de notre série de méditations sur le livre de Marc. Et vous verrez, il y aura trois récits ce matin. Ces trois récits pouvaient faire l'objet chacun d'une seule prédication tout entière. Donc on va essayer de ne pas être très long. Vous connaissez probablement cette anecdote de quelqu'un qui fait un rêve et il voit des pas sur la plage, des empreintes de pas. Une rangée de pas correspond probablement au sien et l'autre rangée aux pas de Jésus. Et puis cette personne est intriguée par plusieurs périodes de sa vie où il n'y avait qu'une seule rangée de pas, finalement. Et la personne se tourne vers Jésus et dit « Mais Seigneur, tu as promis d'être avec moi tous les jours de ma vie. Comment se fait-il que, aux périodes sombres de ma vie, les périodes où j'avais besoin de toi, il n'y a qu'une seule rangée de pas ?» Tu n'as pas été avec moi, Seigneur. Et Jésus lui dit, mais si, je suis avec toi, j'ai été avec toi tous les jours de ta vie. Comment se fait-il alors, Seigneur, que je ne vois qu'une seule rangée de pas? Et Jésus qui lui répond, pendant ces périodes sombres de ta vie, ces pas que tu vois ne sont pas les tiens, mais sont les miens. Pendant ces périodes où tu passais des moments difficiles, je te portais pour t'aider à traverser ces épreuves. Dans l'une des histoires que nous allons lire ce matin, les disciples aussi pensaient qu'ils étaient abandonnés, tout seuls, face à la tempête. Ils pensaient que Jésus les avait laissés, les avait abandonnés à eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il le réveille et qu'il lui dise « Nous périssons et tu ne t'en soucies pas. » Jésus se réveille, il calme la tempête et là, les disciples, saisis de crainte, se posent la question de savoir « Mais qui est cet homme ?» Qui est donc cet homme ? C'est donc la question que les disciples vont se poser dans notre premier récit. Et Jésus, de façon pédagogique, dans la suite, dans les autres récits qui suivront, va leur apprendre à le connaître davantage et à découvrir qui il est vraiment, notamment à travers les miracles qu'il va accomplir sous leurs yeux. Trois récits, quatre miracles accomplis par Jésus, qui nous démontre sa toute-puissance, son autorité sur toute chose. Donc je vous invite déjà à lire donc Marc 4 à partir du verset 35. Marc 4, 35 à 41 pour l'instant. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Dans le bateau, il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. Lui dormait à l'arrière, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Jésus a enseigné les foules toute la journée. La nuit commence à tomber et il dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » On notera que c'est Jésus qui demande à ses disciples de prendre la barque. Les disciples s'exécutent et amenèrent Jésus sur le lac. Jésus se laisse donc conduire et Marc nous dit qu'il s'endormit à l'arrière du bateau. Et voilà qu'un vent violent se met à souffler et que les vagues se déferlent sur le bateau. Les disciples rament dans les deux sens du terme. Pas besoin d'être marin pour se rendre compte que la situation est grave. Le bateau est en train de couler. C'est la panique à bord. Non seulement les disciples voient que la tempête se fait de plus en plus forte, se déchaîne de plus en plus, mais ils constatent également qu'ils sont seuls face à cette épreuve. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'impression. C'est leur impression, qu'ils sont seuls, que Jésus les a laissés seuls face à ce danger. Celui à qui ils pourraient faire appel pour les aider, pour les sortir de cette situation, eh bien, il dort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, comment Jésus fait pour dormir en de pareilles circonstances ? Le bateau tangue de tous côtés, le vent souffle fort, les disciples certainement crient, mais Jésus dort. On pourrait dire qu'il dort du sommeil du juste. En tout cas, quand on lit dans Proverbe 3, 24, il est écrit « Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. » Il faut dire que le sommeil de Jésus, en tout cas, est très paisible en de pareilles circonstances. Les disciples en sont d'ailleurs irrités. Au point qu'au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus et réveillent violemment le Seigneur. « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Jésus se réveille, gronde littéralement le lac et le vent. « Silence, tais-toi !» Et comme un petit gamin qui est grondé par son père, le vent et le lac se calment. C'est le silence. Jésus se retourne vers ses disciples et leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi avez-vous si peur ?» Les disciples auraient pu se dire « Mais il est marrant celui-là. Il est en train de dormir. On rame. On va presque mourir parce que la mer quand même, la navigation, on la connaît. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des pêcheurs, donc ils savaient naviguer. » Et là, on sait qu'on est en train de couler, et le monsieur qui dormait, il se réveille, il nous dit « Pourquoi vous avez peur ?» La question de Jésus peut paraître en effet inappropriée. Qui n'aurait pas peur ? Qui n'aurait pas eu peur dans de telles circonstances ? Mais je crois qu'il faut considérer la question de Jésus dans son contexte global. Depuis le début de l'évangile de Marc, les disciples n'ont-ils pas assisté à des événements extraordinaires, des événements qu'ils n'avaient jamais vus de leurs yeux, peut-être jamais, probablement jamais entendus ? N'ont-ils pas vu Jésus réaliser l'impossible ? Et Jésus est étonné qu'ils ne croient pas encore. Et c'est la question qu'il leur pose. Vous ne croyez pas encore, malgré le fait que vous ayez vu tout ça, délivrance d'un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais dans Marc 1, guérison de la belle-mère de Pierre qui avait une très forte fièvre, guérison de plusieurs malades et délivrance de plusieurs personnes possédées, guérison d'un lépreux rien qu'en le touchant, guérison d'un paralysé à Capernaüm en lui pardonnant ses péchés, guérison de l'homme à la main paralysée, guérison de plusieurs malades et délivrance de plusieurs personnes possédées dans le chapitre 3. Vous ne croyez pas encore. Pourtant, les disciples, quand le lac et le vent se sont calmés, ils ont été saisis de crainte. Ils commencèrent peut-être déjà à comprendre qui était en face d'eux. Ils commençaient déjà à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple maître, comme pouvaient avoir d'autres disciples à cette époque-là. Mais ils n'avaient pas encore vraiment compris qui était leur maître à eux, qui était Jésus. Et ils se sont donc posé la question de savoir, mais qui est cet homme ? Pour que même le vent et le lac lui obéissent. Arrêtons-nous là avant de continuer. Pour nous aujourd'hui, même avec Jésus dans notre barque, on peut essuyer des tempêtes. Même avec Jésus dans la barque de notre vie, nous pouvons, en tant que chrétiens, et les chrétiens n'en sont pas épargnés, nous pouvons avoir de grosses difficultés, de gros problèmes, de gros tracas. On peut même être parfaitement dans la volonté de Dieu et voir des portes se fermer sur notre route. Rappelons-nous que c'est Jésus qui a dit aux disciples de prendre la barque et d'aller de l'autre côté du lac. Les disciples étaient donc à cet endroit-là, précis, en train de faire exactement ce que Jésus leur a demandé. Et pourtant, ils ont essuyé une grosse tempête, à tel point qu'ils pensaient y laisser à leur vie. Même lorsque nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, il peut arriver dans notre vie que nous soyons confrontés à de grosses difficultés. Ces grosses difficultés ne signifient donc pas que nous sommes à l'extérieur de la volonté de Dieu. Nos difficultés ne signifient pas forcément, ne signifient pas que Dieu ne se soucie pas de nous. Je crois que nous sommes souvent comme les disciples. Dieu a peut-être déjà réalisé des choses extraordinaire parfois dans notre vie, mais dès que la petite chose est de travers dans notre vie, nous oublions. Nous avons une forte propension à oublier ce qu'il a fait pour nous, et parfois on se demande même s'il se soucie de nous. Parfois on se pose même la question de savoir s'il sait ce que nous traversons. Ce n'est pas parce que nous traversons des difficultés que Dieu ne se soucie pas de nous. Et parfois, nous pouvons marcher avec Christ, il est à côté de nous, mais nous ne le laissons pas agir. Jésus était dans la barque, mais il a fallu que les disciples se démènent jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes face à cette situation et qu'ils réveillent le Maître. Parfois, dans nos épreuves, dans les épreuves de notre vie, nous cherchons à nous en dégager par nous-mêmes. Christ est là, à côté de nous, avec nous. mais nous ne faisons pas appel à lui. Et on s'étonne de ne pas y arriver. Jusqu'à ce que l'on réveille Christ et qu'on lui demande de nous sauver. Jésus est plus fort que la nature. Les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, nous pouvons lui faire confiance. Et nous pouvons être assurés que, avec Christ dans notre barque, nous sommes en sécurité. Il prend soin de nous et il se soucie de nous. Nous pouvons parfois avoir l'impression qu'il ne fait rien, qu'il dort, qu'il n'intervient pas. Mais encore, avec Christ dans notre barque, qu'importent nos difficultés, nous sommes en sécurité avec lui. Nous poursuivons notre lecture, chapitre 5, de 1 à 20. Qui est donc cet homme pour que le lac et le vent lui obéissent ? Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa. On lit à partir du verset 1. Ils arrivèrent de l'autre côté dans la région de Gérasa où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il les cassait, il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » J'ai appuyé. Voilà. Merci, Scott. C'était l'effet de la Légion. Non, voilà, reconcentrons-nous sur notre texte. Donc, que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus lui demanda, quel est ton nom ? Je m'appelle Légion, lui dit-il, car nous sommes une multitude. Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus. « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Il sortit donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allait raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors, la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc, et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui. Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ? Le récit que nous venons de lire contribue aussi à éclairer davantage les disciples sur qui est en réalité Jésus. Ce n'est pas la première fois que Jésus délivre un démoniaque. Dans le chapitre 1, il l'avait déjà fait. Mais là, on est en présence d'une forme violente de possession. Un homme qui a perdu tout, toute sa dignité, sa personne, sa vie, sa famille, peut-être son travail. Quelqu'un qui était en permanence dérangé. Il ne pouvait être maîtrisé par personne. Quand on arrivait à l'arrêter et qu'on l'enchaînait, il brisait les chaînes. Il était devenu un danger pour toute la communauté et pour lui-même. Il était contraint de vivre reclus dans les tombeaux. Personne ne pouvait le dompter, personne ne pouvait le maîtriser. Et comment ? Et comment ce pauvre gars était tellement habité de nombreux démons, des démons capables d'envoyer tout un troupeau de 2000 bêtes dans le lac. Quel asservissement de l'ennemi sur cet homme. Quel esclavage et quelle souffrance. Mais voici qu'arrive Jésus. Et la Bible nous dit qu'aussi loin que cet homme le vit, il courut vers Jésus, se prosterna devant lui. Là où les démons dans cette contrée avaient la main mise, il rencontre plus fort qu'eux. Devant Jésus, les démons tremblent. Amen. Devant Jésus, les démons se prosternent et le supplient. Ils supplient Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Jésus leur permit de rentrer dans ce troupeau de porcs qui se trouvait sous la montagne et délivra cet homme. Quelle démonstration de force, de puissance, d'autorité de Jésus. Là où les hommes avaient échoué, là où les hommes avaient perdu, Jésus a vaincu. Chose curieuse, les habitants de la ville arrivent, après avoir réalisé ce qui s'était passé, au lieu de se réjouir que Jésus leur a rendu un enfant du pays, et de se réjouir donc de la délivrance de cet homme, ils s'empressent de dire à Jésus de quitter leur territoire. Jésus, plus puissant que les puissances du mal, plus puissant que les démons. Comme les habitants de cette ville qui ont repoussé Jésus, peut-être parce que ils avaient perdu leur gagne-pain, puisque le troupeau de porcs s'était noyé dans le lac, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de donner mon cœur à Jésus ? Combien de personnes aujourd'hui souhaitent que Jésus s'éloigne d'eux ? Parce qu'ils ont peur de perdre leur statut, peur de perdre leur richesse, peur de perdre leurs amis. Quand Jésus rentre dans une vie, il met en lumière le péché. Et simplement, au lieu de reconnaître nos torts devant Dieu et de lui demander pardon et de mettre au pied de la croix, de déposer au pied de la croix nos fardeaux, nos soucis, notre péché, en lui disant « Seigneur, délivre-moi de tout ça. » Parfois, on peut être tenté de dire « Seigneur, non, éloigne-toi de moi. Je tiens encore à ceci, je tiens encore à cela, je tiens encore à mon copain, je tiens encore à ma copine, à mon statut. » Comme les gens de cette ville, aujourd'hui, pour toi, pour moi, qu'est-ce qui m'empêche de donner pleinement mon cœur à Jésus et à le suivre? Pas besoin d'être un expert pour annoncer l'Évangile. L'homme qui a été délivré veut suivre Jésus. Mais Jésus ne le lui permit pas et lui demanda simplement d'aller raconter ce qu'il avait fait pour lui. L'homme s'en alla et proclama dans la région des dix villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Pas besoin d'être un expert pour annoncer l'Évangile. Il suffit simplement déjà de commencer à dire autour de nous ce que Jésus a fait pour nous. Raconter comment Jésus a eu compassion de nous peut commencer à suffire, à susciter de l'intérêt pour Christ, pour ceux qui nous voient, qui nous regardent. On continue notre histoire. Donc, Jésus, qui est persona non grata dans cette contrée, est obligé de partir. Il regagne l'autre rive du lac, et là, une foule immense l'attend autour du rivage. On continue de lire à partir du verset 21. Jésus regagna l'autre rive du lac, là, une foule immense assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Va en paix et sois guérie de ton mal. Imaginez-vous cette dame qui a souffert 12 ans. 12 ans. D'une maladie qui avait non seulement des conséquences sur sa santé, mais aussi sur sa vie sociale. Parce qu'à l'époque, elle était considérée comme impure. Selon la loi de Moïse, elle n'avait même pas le droit de toucher quelqu'un de peur de le rendre impur. Elle n'avait même pas le droit, Elle n'aurait même pas dû se retrouver là, parmi la foule. Elle n'avait jamais vu Jésus. Elle avait simplement entendu parler de lui. Elle savait que sa situation était délicate. Elle avait dépensé une fortune en consultant les meilleurs spécialistes de son époque et aucun d'eux, personne, n'avait pu la soulager. Personne n'avait pu la guérir, la délivrer de son mal. Au contraire, le texte nous dit que sa situation ne faisait qu'empirer. Mais parce qu'elle savait ce que Jésus avait fait dans les autres villes, parce qu'elle savait ce qu'il était capable de faire, tout ce qui se racontait à son sujet, elle s'est dit, je vais saisir ici ma chance. Voici Jésus qui passe dans ma ville. C'est le moment ou jamais. Peu importe ce que les gens vont me dire sur le chemin, peu importe ce qu'ils peuvent penser de moi, même si je ne peux pas le toucher, si simplement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Waouh ! Quel exemple de foi ! Et c'est ce qu'elle fit, et en l'instant même, elle fut guérie. Jésus aurait pu passer son chemin, continuer comme si de rien n'était, et la femme avait certainement cru que comme il y avait la foule, Jésus peut-être ne s'en rendrait pas compte. C'était sans compter sur l'omniscience de Jésus, qui savait exactement ce qui s'était passé. Et dans la pédagogie de Jésus, justement, pour révéler à ce disciple qui il était et qu'il était justement cette personne qui était digne de confiance, il s'est arrêté sur cet événement pour demander, pour susciter le témoignage de cette femme, afin qu'elle raconte son histoire. Il voulait que la femme témoigne et dise comment elle avait été guérie. Et la femme se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Elle avait compris, simplement en ayant des échos de ce que Jésus avait fait, elle avait compris que Jésus était certainement plus fort que la maladie. Elle avait compris que Jésus n'était pas simplement un maître, comme il pouvait y avoir à l'époque, mais qu'il était certainement bien plus que cela. Et Jésus avait besoin aussi de montrer à ses disciples que comme cette femme a compris qu'elle pouvait lui faire confiance, les disciples pouvaient également lui faire confiance. À combien plus forte raison, donc cette femme qui avait tout compris, qui avait compris que Jésus pouvait certainement la délivrer de sa maladie, était bien plus qu'un simple homme, à combien plus forte raison ses disciples qui avaient vu et vécu tant de choses extraordinaires auprès de Jésus. Comme personne n'avait pu maîtriser le démoniaque, personne n'avait pu non plus rendre à cette femme sa dignité, sa vie. Mais Jésus l'a fait, et de quelle manière ? Qui est cet homme pour que même le lac et le vent lui obéissent ? Cet homme qui est plus fort que les démons, plus fort que la maladie. On continue notre histoire. On se rappelle que Jésus, en fait, il était en chemin. Il était en chemin vers la maison de Jaïrus, qui lui avait demandé de venir pour imposer les mains sur sa fille qui était malade, afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Et donc, on continue notre histoire à partir du verset 35. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il sortit tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il prit la main en disant « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Jésus est-il simplement plus fort que la maladie ? Les démons ou les éléments naturels? Est-ce que il pourrait vaincre la mort? Alors que Jairus avait sollicité Jésus pour guérir sa fille, les gens de la maison de Jairus arrivent et disent à Jairus, c'est foutu. C'est pas la peine d'importuner le maître. Il ne peut plus. En gros, il ne peut plus rien faire. Est-ce que ma foi en Jésus est simplement partielle ou totale? Est-ce que je pense que dans les épreuves que je peux vivre, dans ce qui m'arrive, dans les événements que je peux vivre, Jésus peut intervenir pour certains et pour d'autres, non, parce que ça semble compliqué, parce que pour nous cartésiens, c'est irrationnel et que ça n'arriverait pas. Est-ce que Jésus est limité? Est-ce qu'il est simplement vainqueur de la maladie et vaincu peut-être par la mort? En tout cas, c'est ce que pensaient les gens de la maison de Jairus, les émissaires qui sont venus à sa rencontre et qui disaient à Jairus, laisse tomber, c'est foutu. Ils avaient foi en Jésus pour la guérison de la fille, mais pour eux, ils ne pensaient en aucun moment que Jésus-Christ avait non seulement le pouvoir de guérir, mais également le pouvoir de ressusciter la fille de Jairus. Mais Jésus rassure Jairus, ne crains pas, crois seulement. Comme ça devait être agréable pour Jairus d'entendre ces mots. On vient lui annoncer que sa fille est morte, lui qui était venu appeler Jésus pour la guérison, et on lui dit, c'est pas la peine d'importuner le maître, et Jésus qui le rassure et lui dit, C'est pas fini. Crois seulement, ne crains rien. Combien ça nous fait aussi du bien dans notre vie, quand nous traversons des difficultés d'entendre, de percevoir ce message du Seigneur qui nous dit, crois, ne crains pas, crois seulement. Jésus va dans la maison de Jairus et sur son commandement, la jeune fille est délivrée, ressuscitée, elle se réveille au grand étonnement de tous. Ai-je confiance à Dieu pour ma vie ? Ai-je confiance à Dieu pour ma vie tout entière ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ma foi en Dieu est totale ou partielle ? Est-ce que je limite les possibilités de notre Seigneur ? Qui est cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ? Pour que les démons lui soient assujettis, se prosternent devant lui, pour que la maladie s'échappe à son contact, pour que la mort redevienne vie. Ces trois récits nous apprennent en tout cas quelque chose, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, Dieu est capable de nous en délivrer, s'il le veut, parce qu'il est souverain. Que ce soit pour la femme atteinte de la perte de sang, que ce soit même pour le démoniaque, l'homme délivré, que ce soit l'histoire de la tempête apaisée ou de la fille de Jairus, il n'y avait plus, pour toutes ces histoires, il n'y avait plus d'espoir. Tout ce que les hommes avaient essayé de faire était vain. Tout ce qu'ils avaient essayé de faire ne marchait pas. Ils avaient échoué. Plus d'espoir, plus d'espérance, jusqu'à ce que Jésus rentre dans leur vie et leur ramène de l'espoir. Là où l'homme est incapable, Dieu est capable. Là où l'homme est incapable, amen. Là où l'homme est limité, Dieu est illimité. Là où les possibilités de l'homme s'arrêtent, les possibilités de Dieu sont démultipliées. Pour conclure, bien évidemment, ces récits peuvent nous troubler. Nous troubler dans le sens où certains suggèrent justement qu'avec une foi suffisante, tous les tracas de notre vie, tous les événements hostiles à notre vie peuvent, devraient se résoudre de façon heureuse. Mais l'expérience nous apprend que ce n'est pas toujours le cas. On voit la vie de Job, on voit l'histoire de l'apôtre Paul qui a prié plusieurs fois pour être délivré. Inutile de compter le nombre de prières qui sont parfois sans réponse apparente et la consternation des gens qui sont autour de nous malades, qui n'ont pas retrouvé la guérison espérée. Des situations qui se terminent par des drames autour de nous existent et qui ne connaît pas des chrétiens qui ont connu la mort, parfois même tragique. Pourtant, la foi de ces gens n'est pas remise en cause. Dieu n'a pas promis qu'avec lui, on ne connaîtra pas la douleur, l'épreuve, la tempête. On a vu que même avec Christ dans la barque, la tempête peut arriver. Mais Dieu nous assure d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, y compris lorsque nous traversons la tempête. Alors, pouvons-nous lui faire confiance ? Avons-nous compris qui il est réellement. Plus fort que la tempête, plus fort que les démons, plus fort que la maladie et la vie et la mort, pardon. Quand les épreuves s'abattent sur nous, vers qui nous tournons-nous ? Est-ce que nous essayons de nous en sortir par nous-mêmes, ou est-ce que nous crions vers celui qui seul est capable de nous délivrer ? Lui fais-je assez confiance pour l'accepter dans ma vie, même s'il chamboulait tout ? Dans la tempête et les épreuves, même lorsqu'il n'intervient pas, je peux être rassuré que lorsqu'il est avec moi, je suis en sécurité, parce qu'il est au-dessus de tout. Il est celui qui me porte pendant ces périodes sombres de ma vie. Amen.